minutes.
Lambert, je pense que tu vas être d'accord avec moi. J'ai lu la plateforme de Sam Ahmad. Ça m'avait plu. Je la trouvais très réaliste. Je la trouvais bonne pour le citoyen au niveau des finances publiques, notamment avec le retrait de la taxe à l'immatriculation. Je trouvais qu'en développement économique, on avait une vision claire. Mais hier, j'ai pas entendu ça. J'ai juste entendu un Sam Ahmad attaquer Bruno Marchand.
Ouais, exact. Moi, j'ai retenu une affaire, là. Moi, j'ai pas regardé sa plateforme en détail. Je me basais un peu sur le débat pour en apprendre plus. Et au fond, j'ai retiré une affaire que je savais déjà, au fond, de sa plateforme. C'est que, ben lui, il est pour le troisième lien, puis il est contre le tramway.
Ouais.
Fait que, au-delà de ça, j'ai pas appris grand-chose. Je l'ai vraiment trouvé, comme tu dis, là, en mode bully, en mode borderline là, démagogique. Je comprends là, qu'il est deuxième dans les intentions de vote, qu'il tire de l'arrière, qu'il voulait visiblement, sa stratégie, c'était d'essayer de coincer Bruno Marchand. Mais à un moment donné, là, quand Bruno Marchand répond à ta question et que tu continues de picosser, puis de picosser, puis de picosser, ben passe à un autre appel. À un moment donné, il a demandé il y a combien de policiers à embaucher. Bruno a répondu 78 policiers en 2025. Il a dit ben non, c'est pas vrai, c'est pas dans les états financiers. Là, Bruno Marchand, il a dit ben c'est parce que les états financiers de 2025 ne sont pas sortis encore.
Oui, ben c'est ça. Oui, ben exactement. Moi, sur cette séquence-là, puis là, je le sais que c'est pas tous les auditeurs qui connaissent comment fonctionnent des états financiers et tout ça, mais. Peut-être tu le sais, là, quand tu es un candidat à la mairie, quand tu es un ancien ministre libéral, que si tu parles de statistiques 2025, elles vont être mises à jour à la fin de l'année. Là.
Ben, tu sais, les états financiers d'une année sont mis à jour à la fin de l'année quand l'année est terminée. Puis là, à ce que je sache, on est encore en 2025. Tu sais, quand je te parle d'amateurisme, là, je l'ai trouvé vraiment, tu sais, pour un gars qui a été ministre très, très longtemps au gouvernement du Québec, je l'ai trouvé très amateur. Et les gens qui ont écouté le débat aussi dans mon entourage disent un peu la même chose. Sur un segment au niveau de ses relations, les relations du maire Marchand avec le gouvernement du Québec, bon, sa maman a dit, si tout le monde le sait, que les relations du maire Marchand sont pas bonnes avec le gouvernement du Québec. Mais écoute, je peux juste parler pour moi quand j'étais là. Les relations avec notre cabinet étaient très, très bonnes. J'ai fait mon tour de roue auprès du cabinet de la ministre de l'Habitation, évidemment, qui collabore beaucoup avec les municipalités. Non seulement, comme je le pensais, les relations étaient bonnes, on m'a dit qu'elles étaient extraordinairement bonnes. La ministre de la Capitale-Nationale aussi, je sais que toi, t'en avais entendu parler
exactement,
également.
Oui, exactement, Jonathan Julien, très bonne relation avec Éric Girard aussi aux finances. Tu sais, c'est simple, Bruno Marchand, ça l'a accroché avec une seule personne, Geneviève Guilbeault.
Et en toute transparence, c'est pas le seul avec qui ça l'a accroché avec Geneviève Guilbeault.
Tu me voles les mots de la bouche, mon Lambert.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ben honnêtement, je pense pas qu'il est complaisant, là. Bruno Marchand, il défend sa ville, là. Il défend sa ville. Moi, je me rappelle avoir eu des rencontres avec lui, puis, tu sais, il y a des bonnes relations, c'est cordial, mais quand il est temps d'aller au bat pour les gens de Québec, je me rappelle qu'il est très, très, très entêté, je vais dire même. Là. Il est capable de défendre son monde, puis, tu sais,
ben, t'as raison. Charmant, t'as raison là-dessus, puis c'est un point positif, honnêtement. T'sais, tu me le fais voir d'un autre angle, mais c'est un point positif. C'est un point qu'on émet de Régis Labombe, justement. Et il n'a pas hésité, Bruno Marchand, à le faire après le discours de François Legault cette semaine en sortant en disant « Hey, ça n'a pas de bon sens, on ne parle pas d'itinérance, on ne parle pas de logement. Voyons donc, la crise est dans toutes les villes, dont à Québec. » Donc,
puis
moi, j'ai assisté à des conférences
de presse.
Ah oui,
de la politique. Là.
J'ai assisté à des conférences de presse où il t'a planté François Bonnardel parce qu'il n'y avait pas assez de policiers puis d'aide de la SQ. Il n'hésite pas à mettre la CAQ à l'avant-plan puis même à les envoyer à l'abattoir. Là.
Ben exact. Sur la place publique, il fait de la politique. C'est un politicien. Son but, puis là, M. Ahmad relevait le fait qu'il n'est pas allé chercher de gains au niveau des policiers, il n'est pas allé chercher de gains à telle autre place. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu es maire d'une grande ville comme ça, tu es beaucoup dépendant des moyens qui te sont donnés par le gouvernement de la province, par le gouvernement du Québec. Et tu lances des dards, tu fais de la politique, tu tapes sur le clou, puis ta job, c'est un peu de continuer de taper sur le clou, puis tu tapes, puis tu picosses, puis à un moment donné, tu vas aller en chercher des gains. Puis c'est pas vrai qu'il est pas allé en chercher. Il a parlé du championnat du monde junior, mm-hmm. Il a parlé de, tu sais, moi, je me rappelle une annonce qu'on avait fait en itinérance à l'Aube-Rivière, une conférence de presse avec M. Carman, M. Julien, M. Marchand. Fait que, tu sais, il y en a eu des gains, là. Puis, tu sais, dans l'optique de la démagogie, encore une fois, on s'en parlait un peu avant d'entrer en onde. Le discours inaugural, M. Ahmad a dit « Avez-vous parlé au premier ministre avant son discours inaugural? » Hey, tu penses-tu vraiment, là, la CAQ, écoute, dans le bas des sondages, qui essaie de garder la tête en dehors de l'eau, tu penses-tu vraiment là, que le PM il va baser là, son allocution d'ouverture pour ce qui est peut-être sa dernière année en politique active sur le pitch que va y faire le maire de la Ville de Québec? Voyons donc, là, c'est comme... Bref, je l'ai trouvé démagogique, je l'ai trouvé amateur et je suis pas sûr qu'il s'est aidé hier à revenir dans la course. Je suis pas sûr que sa stratégie était la bonne. Alors, voilà.
Vois-tu par texto une personne qui écrit « Va t'inviter, Lambert Drainville résume ma pensée à 100%, bravo. » Tout à l'heure, les gens ont bien réagi également. Je me suis rendu compte que beaucoup de partisans de Sam Ahmad qui demeurent partisans de Sam Ahmad aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un sondage léger, il y a 51% des gens à Québec qui veulent un changement à la mairie. Parlant de sondage léger, Lambert, 36% PQ, 25% libéraux, 16% la CAQ, 15% le PCQ et 6% Québec solidaire. Le discours, le remaniement ministériel, ça n'a pas créé d'effet positif présentement à la CAQ.
Ouais, puis j'entends beaucoup d'analyses là-dessus. Je voulais juste faire une petite précision. Là,
ben vas-y.
Le sondage a été mené du 26 au 28 septembre, donc ça a été fait avant.
Avant le discours.
Le discours. Fait que ça, c'est important. Là, j'entendais des analystes
vraiment.
Sur toutes les tribunes parler que le discours n'a pas eu d'effet. Ben c'est un peu normal quand que le sondage a été mené avant le discours.
En effet.
Fait que petit point de précision, mais effectivement, il a quand même été mené après le remaniement et il y a plusieurs éléments du discours qui avaient déjà été.
Dans le discours du remaniement, là.
Exact, qui avait déjà été rendu public, là, qu'on savait un peu, c'était du réchauffé lorsque le discours a été prononcé. Si je vais parti par parti, bon, le Parti québécois, évidemment, on continue, on garde la tête, on reste largement premier. Parti libéral du Québec, écoute, son deuxième, leur défi, c'est encore une fois les francophones. Il n'y a pas de gros gain au niveau du vote francophone dans leur cas.
Non, seulement 16% que j'ai vu.
Exact. On est toujours dans l'optique du 15-16%. Si ça reste comme ça, ben qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas mal destinés à demeurer à Montréal et à Laval. Fait que, écoute, moi, je m'attendais, quand Pablo Rodriguez est arrivé, à vraiment un changement de paradigme, une nouvelle vision, un nouvel élan, des nouvelles propositions. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il est assez invisible.
Je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'ai dit à Marc Tanguay cette semaine en onde, qui était en entrevue avec nous, j'ai dit « Monsieur Tanguay, vous allez pogner une débarque pas à peu près parce que c'est Pablo Rodriguez qui va venir remplacer Marois Risky. » C'est parce que Marois Risky a bouffé Pablo Rodriguez au niveau politique, là.
Ben pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Il n'a pas eu la chance de faire ses preuves au Salon Rouge, jusqu'à maintenant, mais tu sais, là, je comprends qu'il est en réhabilitation. Il y a eu une opération.
Ouais.
Présentement, on va lui donner le bénéfice du doute. Là. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais écoute, il va falloir qu'il réussisse à aller chercher plus de traction. Là. Pour la CAQ, bon, ça bouge pas. Ce qui est bon. Ce qui est une mauvaise nouvelle, parce que Tabarouette, il faut que ça bouge, tu sais. Eux autres,
ben oui.
leur point, c'est que là, dans les. On est en année électorale, il faut que ça bouge parce que si ça ne bouge pas, Jeff, je te le dis, on va se parler au retour des fêtes en janvier, février. Puis rappelle-toi comment ça s'est passé avec Joe Biden, rappelle-toi comment ça s'est passé avec Justin Trudeau. Quand ça commence à grenouiller, puis que là, les élus sortent, puis ça coule dans les médias, l'insatisfaction, puis là, il y a certains élus qui tranquillement se positionnent pour possiblement devenir l'alternative. Ça va devenir très, très difficile pour le premier ministre. Puis bref, il faut que ça commence à bouger dans les sondages parce que sinon, comme je le dis, ça va vraiment grenouiller.
Toi, tu vois un scénario là, Justin Trudeau, que ça sera au retour des fêtes. Mon collègue le matin, Yannick Marceau, dit que ça va se passer en décembre.
Non, je vois pas. Même que je pense que ça pourrait se faire. Là, si vraiment il s'accroche trop longtemps, ça pourrait être plus tard encore que ça. Là. Il pourrait partir plus au courant de l'été. Et ce serait un peu malheureux parce qu'il laisserait à ce moment-là vraiment pas beaucoup de temps là, à la personne qui viendrait pour le remplacer. Parti conservateur du Québec, c'est le meilleur résultat, eux autres, c'est les gagnants de ce sondage-là.
Clairement.
4. Ils se rapprochent de la CAQ et de la troisième place. Ce que ça me dit, ben, c'est qu'il y a effectivement une frange de la population qui est de plus en plus à l'écoute de ce discours-là qui est de droite. Et la CAQ a visiblement... Et visiblement au courant de ça, dans le discours du premier ministre, c'était évident qu'il y a un virage à droite quand on met sur la sécurité, quand on parle autant d'immigration, les islamistes radicaux, c'est allé quand même loin. Là. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est le Parti conservateur qui bénéficie de ce virage à droite d'une frange de la population québécoise présentement, puis que malgré le virage à droite de la CAQ, les gens n'écoutent tout simplement plus quand François Legault parle. Et là, il reste Québec solidaire là, avec une autre baisse d'un point. Ben honnêtement, je ne sais plus trop quoi te dire par rapport à eux. Là. Je les ai trouvés bons cette semaine. J'écoute la période de questions régulièrement. Mais ils n'ont juste aucune traction. Ils ne réussissent pas à aller chercher de l'attention médiatique. Je pense qu'ils vont vraiment être dus pour une grosse, grosse remise en question, une grosse réflexion avec leurs membres sur vers où est-ce qu'on s'en va. T'sais, Gabriel Nadeau-Dubois avait voulu ramener ce parti-là dans le pragmatisme, dans un parti qui pourrait aspirer à gouverner un jour. Ça n'a visiblement pas fonctionné. Là, est-ce que c'est un parti qui est destiné à être un parti militant de gauche qui va vouloir justement être très revendicateur, mais ne pas vraiment aspirer à gouverner, ou ils veulent se positionner comme un parti qui un jour pourrait gouverner? Il faut que la réflexion se fasse, il faut qu'une décision claire et précise soit prise à ce niveau-là et qu'elle soit transmise aux Québécois pour que les Québécois sachent à quoi s'attendre à leur égard.
Bien, c'est sûr que de voir ce résultat-là pour Québec solidaire, ça semble difficile après ça de dire « Ouais, on a aspiration à gouverner avec un 6% dans les sondages, puis en faisant que descendre. » Moi, Lambert, j'aimerais ça t'entendre. Parti conservateur à 15% présentement. On sait qu'une grosse partie de la population trouve un peu le Parti conservateur ridicule. Il y en a que le seul souvenir qu'ils ont, c'est la COVID, puis qui n'aspiraient pas nécessairement aux mêmes idéaux qu'Éric Duhaime. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement la façon caricaturale, parfois, qu'Éric Duhaime a à faire de la politique. Est-ce que tu penses que le Parti conservateur, d'ici les prochaines élections dans les sondages, pourrait réussir à enfin franchir ce fameux cap-là du 15%?
Oui, absolument. Je pense que, comme je te dis, ils sont en croissance. Je pense que si la CAQ ne se remet pas sur les rails, plus on va arriver proche de l'élection, plus ils vont devenir une option crédible. Surtout que, tu sais, il y a 2-3 semaines, là, Éric Duhaime est rentré à l'Assemblée nationale avec le député indépendant, l'ancien caquiste, Yuri Chassin. Tu sais, il avait quand même des propositions par rapport au prix de l'essence, par rapport à la bureaucratie, des propositions concrètes. Desquels la CAQ, d'ailleurs, s'est inspirée visiblement là, pour le discours d'ouverture du premier ministre. Là. Mais.
Ben d'ailleurs, penses-tu que Éric Duhaime va sortir gagnant de ça, de pouvoir faire ses sorties après et dire: garde, vous voyez, c'est moi qui ai proposé telle idée, maintenant le premier ministre l'adopte, c'est moi qui ai proposé telle idée, maintenant par exemple ouais. Le PQ l'adopte. Éric Duhaime pourrait sorti gagnant de ça.
C'est un bon point que t'amènes, puis c'est un peu ça son spin présentement, c'est de dire, ben écoutez, moi je suis rentré en politique pour un parti qui allait même pas chercher 1% des intentions de vote, parce que je croyais en mes idéaux, je croyais à la droite au Québec, et ben là, il est rendu à 15%, il se fait voler ses idées par les autres partis, et là, il est en train de dire, ben voyez-vous, je suis rentré pour pousser mes idées, pousser mes idéaux, et mes idéaux et mes idées font du chemin et sont même repris par d'autres partis politiques. Et lui, il dit, ben écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et moi, mes bottines sur mes babines. Et donc, si vous souhaitez continuer d'aller dans ce sens-là, d'un agenda plus à droite, ben je vais devenir une option sérieuse pour 2026. Bien honnêtement, je pense qu'il gagne effectivement à s'éloigner là, de la position qu'il avait durant la pandémie. Mm-hmm. Puis les espèces de dossiers un peu secondaire, là, qui a eu l'habitude de mettre beaucoup d'emphase dessus. Là, plus il va devenir, proposer des idées sérieuses, plus je pense qu'il va se normaliser aux yeux d'une bonne partie de l'électorat.
Bon point, Mathias. Mathias, c'est tellement sur la coche, Lambert. Il est en progression fulgurante. Les auditeurs nous l'écrivent et ils ont tellement raison. Fait un travail impeccable. Lambert, on termine avec le dossier santé numérique parce qu'on a mis sur pause deux projets, c'est-à-dire le projet de regroupement pour nos dossiers de santé. Autrement dit, pour que peu importe où on va, les médecins ou les infirmières puissent voir notre dossier. Le dossier également pour ce qui est de la gestion financière du système de santé. Et là, la presse nous apprend que Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité du numérique, lui, c'est pas une pause qu'il veut. Il veut mettre LGS dehors. LGS, qui était la firme impliquée dans le fiasco Satlick. Comment tu vois la situation? Est-ce qu'on va être sur pause pendant un bon temps, le temps d'aller se battre en cours pour mettre LGS dehors puis repartir sans neuf?
Ça va être à suivre. Je pense que c'est bien déjà que le ministre de la Cybersécurité tienne tête, là, parce que M. Dubé quand même a quand même un certain poids au sein du Conseil des ministres. Puis là, lui, il est arrivé en remplacement d'Éric Kerr, puis c'est pas, bon, le ministre avec le portefeuille le plus pesant, mais il tient son bout, puis lui, il a une job, puis c'est de suivre le développement des projets informatiques. Puis à un moment donné, bien, s'il y a des risques de dépassement, il s'assure de ne pas faire les mêmes erreurs que son prédécesseur, puis de mettre le frein là-dessus. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, c'est sûr que c'est un projet qui est central à la réforme que souhaite faire Christian Dubé du réseau de la santé. C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle ce matin. Au niveau du dossier santé numérique, évidemment, c'est intimement lié aux médecins, là, les médecins spécialistes qui ont refusé de participer à son implantation pour faire des moyens de pression alors qu'ils sont en négociation avec le gouvernement. Pour l'autre projet, ben c'est vraiment là, un comité de surveillance qui avait été mis en place dans la foulée de sa clique, justement, à Santé Québec, puis justement au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. On avait dit, hey, voyez ce qui se passe à sa clique, là. On veut certainement pas qu'il arrive la même chose de notre bord. Fait que si vous voyez que ça dérape, qu'on dépasse les sommes, qu'on dépasse les échéanciers, ben levez-nous un drapeau rouge, puis on va mettre le frein là-dessus. C'est ce qui a été fait. Fait que, tu sais, moi, je pense que, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle dans ça, c'est au moins qu'on apprend, tu sais.
Je suis tellement d'accord avec toi.
À vous, hein?
Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai lu ça ce matin, et là, quand je vois l'article dans la presse, justement, qui parle du nouveau ministre Bélanger qui veut vraiment regarder ça en détail avec les contrats qu'on a donnés à LGS, ben moi, je me dis, sais-tu quoi? La commission Galant sert vraiment à quelque chose. Je suis content.
Ben, tu sais, exact. Les erreurs, c'est une chose, mais au moins, l'important, c'est d'apprendre des erreurs. On chiale sur le fait que ça a coûté puis qu'on a tiré tellement de centaines de millions par les fenêtres. Mm-hmm. Ben, au moins, là, on va s'assurer d'avoir un portrait. L'AMP, l'Association de l'Autorité des marchés publics, exactement. Oui. L'AMP qui fait une enquête présentement, qui va arriver avec des recommandations. Le gouvernement va pouvoir tirer ses conclusions de ces recommandations-là par la suite. T'sais, c'est sûr que les besoins restent là. Présentement, tu as 30 systèmes différents, un par CIS puis par CIUS. À l'intérieur de ces systèmes-là, tu as tout un paquet de règles pour les primes, les bonus, c'est tout un fouillis. Là, si tu veux avoir un employeur unique comme Santé Québec, il faut que tu aies un système d'informatique unique, sinon il n'y a rien qui va changer. Fait qu'éventuellement, je veux dire, ils vont devoir quand même, là, c'est sur la glace, ils vont quand même devoir prendre une décision au bout de la ligne. Est-ce qu'on tire sa plug? Et c'est ce que Gilles Bélanger semble vouloir préconiser. Est-ce qu'on tire sa plug puis on paye l'amende qui vient avec le fait de briser le contrat ou on va de l'avant puis on paye les dépassements de coûts?
Ça va être une décision importante pour la crédibilité de la CAQ là, dans cette année électorale-là.
Ça va être une décision importante pour la crédibilité de la CAQ puis bien franchement, pour le simple développement du réseau de la santé, à un moment donné, les fax, là, ça va faire.
Oui, c'est ça, exactement. T'sais? Surtout qu'à des endroits, le fax reste bouché, puis à un moment donné, ping, 5000 consultations qui rentrent. C'est arrivé dans un hôpital de Québec.
Le nombre d'exemples, mon gars, qu'on pourrait sortir,
c'est ça,
un bon sens. Écoute, je vais finir en disant que dans tous les cas, la vérité, c'est que il y a tout un foutu problème avec ces contrats informatiques-là, puis je comprends le ministre Bélanger de vouloir sortir LGS de l'équation, mais c'est toujours le même scénario. On lance un appel d'offres, puis il n'y en a pas 36 des compagnies qui sont capables de prendre en charge des gros contrats comme ça. Il y en a 2-3 qui déposent des propositions sur les appels d'offres. En cours de route, on réalise qu'on a mal cerné les besoins, ça coûte plus cher, dépassement de coûts, on dépasse les budgets, les échéanciers, et on finit par payer des centaines de millions de trop pour ces projets-là. Parce que comme les infrastructures des hôpitaux, des cliniques ont été un peu délaissées et mal entretenues au fil des années, c'est un peu la même chose avec les systèmes informatiques. Ils sont très gros, ils sont très vieux, ils sont très vétustes. Et c'est tout un fouillis, particulièrement quand tu n'as pas cette expertise-là à l'interne, au sein des ministères, pour compétitionner avec l'expertise des compagnies privées de sortir gagnant de ce genre de dossier-là.
Tu as raison, 100% Lambert Drainville. On se reparle mercredi prochain. Passe un beau week-end et merci encore pour ta participation à l'émission. On en jase!
Yes, sir. On s'en reparle le mercredi prochain, messieurs.
Yes.
Une belle fin de semaine à vous.
Salut, mon chum. Hey, c'est rentré par texto. Mathias à la mairie. Pourquoi pas? On amène Mathias, justement, à la mairie de Québec. Let's go, guys!
Après plusieurs propositions des différents auditeurs, pendant le débat, Amad Marchand ça. D'amener Denis à Gravel à la
ouais,
place à la
là,
mairie.
C'est toi, Matt,
maintenant, c'est moi. On
tu
met des,
faire ta campagne
hey, des dizaines et des dizaines de candidats partout. Ça ne va plus arrêter. On en a déjà six. C'est en masse.
Oui, c'est en masse. Tu as bien raison. Nadine, tout à fait d'accord avec Lambert. Sam Amad n'a pas été très concluant. En effet, c'est la pensée de plusieurs. Amad a tellement attaquer Marchand sans fondement, c'est un autre auditeur ou auditrice qui nous écrit ça, que même les gens qui n'aiment pas Marchand le défendent. En effet, je ne suis pas un grand défenseur de Bruno Marchand, puis après ce débat-là, je me surprends à dire, ouais, il me semble que Bruno s'en est bien tiré. Donc, c'est un excellent point. Il y a Antoine qui mentionnait, j'aurais une question, puis là, je m'excuse Antoine, on ne l'a pas posé à Lambert. Pourquoi au Québec versus en France, les politiciens ne sont pas imputables des fraudes créées et que c'est encore la société qui doit payer par en arrière? Ça va peut-être faire partie des recommandations de la commission Galland. Dire, hey, là, l'imputabilité, il en a parlé énormément durant la commission. Comment qu'on peut rendre ça plus loin? Et même si ça n'a pas donné de grands résultats depuis sa création, il y a l'UPAC qui existe, qui pourrait justement mener à des accusations aux criminels. Circulation, Mathias?
Oui, ben je vous parlais tout à l'heure de l'accident sur Capitale direction ouest à hauteur de boulevard Henri Bourassa. Maintenant, c'est la voie de gauche et la voie du centre qui est bloquée. Donc vraiment, comme je vous l'avais dit tantôt, prévoyez un ralentissement monstre qui va se créer dans le secteur, puis c'est un ralentissement monstre. Là. On parle d'à partir de rue Seigneuriale à Beauport jusqu'à Henri Bourassa. Mais on parle vraiment de pare-choc à pare-choc. Ça avance au ralenti. Également, Capitale direction est cette fois-ci à hauteur de Robert Bourassa. Ralentissement à prévoir. Henri IV direction sud pour prendre le pont Pierre-Laporte. Présentement, ça remonte jusqu'à versant nord. On s'en va sur Charest en direction est à hauteur de Avenue Holland. Un ralentissement à prévoir également. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Ah, que j'ai adoré notre débat d'hier et que j'adore ces exercices démocratiques parce que ça vous fait tellement réagir. Christian qui écrit « Marchand un super pouvoir attendrir et en faisant pitié. » En effet, c'est un super pouvoir. Pascal qui écrit « Il n'y a personne qui confronte Marchand, il n'est pas challengé. » C'est tellement vrai. Va falloir justement qu'on se lance plus sur le bilan. Puis je vais le répéter, fait 48 ans, je le répète. Développement économique, les candidats qui sont contre Bruno Marchand, allez l'attaquer là-dessus. Recul de 0,3% en 2023. Ça a fait de Québec la pire ville des 20 plus grandes villes au Canada. Seulement une hausse de 0,4% en 2024 et l'an 2025, on s'en va là-dessus sur un 0,4-0,5. C'est là le maillon faible de Bruno Marchand. Attaquez-le sur le développement économique.
Puis je tiens à le préciser, par le ton que M. Amad a employé hier, moi je l'ai quand même aimé. Le débat a commencé, puis Amad il est
déterminé.
Allé agressif, puis j'étais comme... Je le dis depuis le début de la campagne que pour moi, Sam Amad manque de mordant. J'étais comme enfin du
vrai.
Mordant. Au début du débat, ça a été ça ma première réflexion. Ça a été enfin, Sam Amad a du mordant, ça va être un bon débat. Ce qui m'a déçu, c'est que je trouvais, c'est pas que Marchand a été attaqué par Amad. Ça, j'ai trouvé que c'était correct. Ce qui m'a plus dérangé, moi, c'est qu'on n'attaquait pas sur des bonnes choses. On attaquait sur des chiffres, sur des données de la ville qui, au final, menait absolument à rien.
On l'attaquait sur des picadilles.
C'est ça. Si on l'avait vraiment attaqué concrètement avec ce ton-là, là, on aurait peut-être, j'aurais peut-être sorti de là puis j'aurais dit « Hey, Sam Amad a fait tout un travail. »
Ben vraiment, t'es fait juste prendre le débat, la thématique sur les finances et le développement économique.
Oui.
Là, Sam Amad s'est enfargé dans un nombre d'employés, nombre de policiers, puis pourcentage de par rapport au budget de comment coûtent les salaires des employés. Mais moi, là, j'avais été Sam Amad, j'aurais dit, Bruno, M. Marchand, dites-moi donc, c'est quoi vos résultats en développement économique en pourcentage? Puis là, Bruno Marchand est obligé de dire moins 0,3, 0,4, hein? Puis on s'en va vers 0,5. Parfait, c'est quoi votre vision en développement économique? Là, Bruno Marchand aurait parlé, Sam Amad, il aurait dit, vois-tu, moi, ma vision, c'est ça. Tac, tac, tac. Puis ça va rapporter tant parce que moi, je l'ai fait quand j'étais ministre. Puis moi, je crois à ça. Puis l'intelligence artificielle, c'est vers là qu'il faut s'en aller. Il aurait emboîté Bruno Marchand solide.
Mais au lieu, on a aimé mieux s'attarder sur combien la ville dépense en montant pour
exactement.
Ses employés. Combien de policiers on a engagés quand pour moi, au final, ce chiffre-là Ben, change pas grand-chose.
Ça importe peu, là. J'en ai embauché 48 ou 22, là. Ça importe peu à l'heure actuelle, là. J'ai envie de vous parler d'un garçon spécial, un jeune garçon à la fois courageux et résilient, mais surtout talentueux. J'ai envie de vous parler de Jalen. Jalen, c'est un garçon en soins palliatifs atteint d'une tumeur au cerveau. Depuis sa première craniotomie, il dessine des robots, chacun inspiré par ses émotions et son parcours face à la maladie. Chaque couleur, chaque trait traduit ses émotions du moment. Ces robots sont forts, colorés, porteurs d'espoir, représentent puissance et résilience. Il a choisi de partager son univers incroyable avec nous. L'équipe formidable de la maison Les Merveilles, Suzanne Vachon, qui offre des soins pédiatriques, palliatifs et réalise les rêves des enfants en fin de vie, a collaboré avec Encadrement Desrochers pour rendre son rêve réalité. Exposer ses dessins dans une galerie d'art. Hey, c'est-tu pas beau? Ce samedi 4 octobre de 13h à 17h, venez plonger dans son univers touchant et émouvant. Ses dessins seront exposés au pavillon Marc Beauchamp ainsi que sur le site web au galeriebeauchamp.com/collection/Jalen. 100% des profits amassés sur la vente de ces dessins seront remis à la Fondation Le Camp du CHU. Alors, participez en grand nombre et allez encourager Jalen, ce jeune garçon tellement, mais tellement courageux. On fait une courte pause à On en jase sur Boulevard 101. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité, mais surtout les grands rendez-vous sportifs de la fin de semaine. Restez avec nous. On en jase.